Bonsoir et bienvenue dans ce premier épisode du podcast Lecture Nocturne. Je m'appelle Benjamin et au fil des émissions, j'aimerais vous montrer un monde du livre différent. Nous passerons des œuvres liées à l'actualité littéraire aux romans plus atypiques. Nous découvrirons ensemble des genres, sous-genres, formats et supports inédits, étranges, bizarres ou curieux. Un lecteur a tendance à se cantonner au style qu'il apprécie, voire même aux mêmes auteurs qu'il a lus et relus. J'ai été dans ce cas. Pourtant, c'est au fil des découvertes, propulsées par mes amis ou les circuits traditionnels de la publicité, que j'ai appris à apprécier des livres qui ne m'intéressaient auparavant pas du tout. Dans ce podcast, j'espère ainsi vous proposer une grande panoplie éclectique d'ouvrages, tout en attisant votre curiosité. Lecture Nocturne s'écoute de préférence dans un lit bien confortable, avant de s'endormir, afin d'embarquer dans une nuit remplie de péripéties, de figures de style et de points de suspension. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de L'Anomalie de Hervé Le Tellier. Publié le 20 août 2020 aux fameuses éditions Gallimard, ce roman de roman a reçu la fameuse distinction du prix Goncourt cette année. Son résumé, tel qu'affiché sur le site de l'éditeur, lit comme suit. Il est une chose admirable qui surpasse toujours la connaissance, l'intelligence et même le génie. C'est l'incompréhension. En juin 2021, un événement insensé bouleverse les vies de centaines d'hommes et de femmes, tous passagers d'un vol Paris-New York. Parmi eux, Blake, père de famille respectable et néanmoins tueur à gages. Slim Boy, pop star nigériane, las de vivre dans le mensonge. Johanna, redoutable avocate rattrapée par ses failles. Ou encore Victor Mizell, écrivain confidentiel soudain devenu culte. Tous croyaient avoir une vie secrète. Nul n'imaginait à quel point c'était vrai. Roman virtuose où la logique rencontre le magique, l'anomalie explore cette part de nous-mêmes qui nous échappe. Avant de vous livrer mon avis, voici un extrait du livre. Blake. Tuer quelqu'un, ça compte pour rien. Faut observer, surveiller, réfléchir, beaucoup. Et au moment où, creuser le vide. Voilà, creuser le vide. Se débrouiller pour que l'univers rétrécisse, rétrécisse jusqu'à se condenser dans le canon du fusil ou la pointe du couteau. C'est tout. Ne pas se poser de questions, ne pas se laisser guider par la colère, choisir le protocole, agir avec méthode. Blake sait faire ça, et depuis tellement longtemps qu'il ne sait plus quand il a commencé à savoir. Après, le reste vient tout seul. Blake fait sa vie de la mort des autres. S'il vous plaît, pas de leçons de morale. Si on veut discuter éthique, il est prêt à répondre statistique. Parce que, et Blake s'excuse, lorsqu'un ministre de la Santé coupe dans le budget, qu'il supprime ici un scanner, là un médecin, là encore un service de réanimation, il se doute bien qu'il raccourcit de pas mal l'existence de milliers d'inconnus. Responsable, pas coupable, air connu. Et de toute façon, il n'a pas à se justifier. Il s'en fout. Tuer, ce n'est pas une vocation, c'est une disposition. Un état d'esprit, si l'on préfère. Blake a 11 ans et ne s'appelle pas Blake. Il est à côté de sa mère, dans la Peugeot, sur une départementale près de Bordeaux. On ne roule pas si vite. Un chien traverse la route, la secousse les déporte à peine. La mère crie, freine, trop fort. Le véhicule zigzague, le moteur cale. Reste dans la voiture, mon chéri. Mon Dieu, reste bien dans la voiture. Blake n'obéit pas, il suit sa mère. C'est un collet au poil gris. Le choc lui a défoncé le thorax. Son sang s'écoule sur le bas-côté, mais il n'est pas mort. Il geint, on dirait la plainte d'un bébé. La mère court en tous sens, paniquée. Elle pose ses mains sur les yeux de Blake. Elle balbutie des mots sans suite. Elle veut appeler une ambulance. Mais maman, c'est un kleps, c'est juste un kleps. Le collet halète sur le bitume fissuré, son corps brisé, tordu, adopte un angle bizarre, il est agité de soubresauts qui vont en s'affaiblissant, il agonise sous les yeux de Blake, et Blake regarde avec curiosité la vie quitter l'animal. C'est fini. Le garçon mime un peu la tristesse, enfin ce qu'il imagine être la tristesse, pour ne pas troubler sa mère, mais il ne ressent rien. La mère reste là, glacée, devant le petit cadavre. Blake s'impatiente, il l'attire par la manche. Maman, allez, ça sert à rien de rester là, il est mort là. On y va, je vais être en retard au foot. Tuer, c'est aussi des compétences. Blake découvre qu'il a tout ce qu'il faut le jour où son oncle Charles l'emmène chasser. Trois coups, trois lièvres, une espèce de don. Il vise vite et juste. Il sait s'adapter aux pires carabines pourries, aux fusils les plus mal réglés. Les filles le traînent dans les fêtes foraines. « Hé, s'il te plaît, je voudrais la girafe, l'éléphant, la Game Boy, oui, vas-y, encore !» Et Blake distribue des peluches, des consoles de jeux. Il devient la terreur des stands de tir, avant de décider de faire dans la discrétion. Blake aime bien aussi ce que lui apprend l'oncle Charles, égorger les chevreuils, dépecer les lapins. Qu'on se comprenne bien, il ne prend aucun plaisir à tuer, à achever l'animal blessé. Ce n'est pas un vislard. Non, ce qui lui plaît, c'est le geste technique, la routine sans faille qui s'installe à force de répétition. Blake a 20 ans, et sous son nom très français, Lipovski, Farsati ou Martin, il est inscrit dans une école hôtelière d'une petite ville des Alpes. Ce n'est pas un show par défaut, attention. Il aurait pu faire n'importe quoi. Il aimait l'électronique aussi, la programmation. Il était doué en langue. Tiens, l'anglais. Il lui avait suffi de 3 mois de stage chez Langs à Londres pour le parler quasiment sans accent. Mais ce que Blake préfère par-dessus tout, c'est cuisiner. Pour les moments de vide, à composer une recette, le temps qui s'écoule sans hâte, même dans l'agitation fiévreuse d'une cuisine, les longues secondes calmes à regarder fondre le beurre dans la poêle, réduire les oignons blancs, monter un soufflé. Il aime les odeurs et les épices. Il aime créer un arrangement de couleurs et de saveurs dans une assiette. Ça aurait pu être l'élève le plus brillant de l'école, mais vraiment, merde, Lipovski, ou Farsati, ou Martin. Si seulement vous étiez un peu plus aimable avec la clientèle, ça ne saurait pas nuire. C'est un métier de service, vous entendez, Lipovski? Ou Farsati, ou Martin? Un soir, dans un bar, un type, bien saoul, lui dit vouloir en faire tuer un autre. Il a sans doute une bonne raison pour ça, un truc de boulot, de femme, mais Blake, ça lui est égal. Tu le ferais, toi, pour du fric? T'es dingue, répond Blake. Complètement dingue. Je te paierai. Et cher. La somme qu'il propose est à 3-0. Blake se marre. Non. Tu rigoles? Blake boit, lentement, prend tout son temps. Le type s'est effondré sur le bar, il le secoue. Écoute, je connais quelqu'un qui le ferait. Pour le double. Je ne l'ai jamais rencontré. Demain, je te dis comment le joindre, mais après, tu ne m'en parles plus jamais, ok? C'est cette nuit-là que Blake invente Blake. Pour William Blake, qu'il a lu après avoir vu Dragon Rouge, le film avec Anthony Hopkins, et parce qu'il a aimé un poème, « Et je bondis dans ce monde dangereux, impuissant, nu et criard, comme un démon caché dans un nuage. » Et puis Blake, Black et Lake, Noir et Lac, ça claque. Dès le lendemain, un serveur nord-américain accueille l'adresse mail d'un certain blake.mic.22, créé dans un webcafé de Genève. Blake achète un liquide et à un inconnu un ordinateur portable d'occasion, se procure un vieux Nokia et une carte prépayée, un appareil photo, un téléobjectif. Une fois équipé, l'apprenti cuisinier fournit au type le contact de ce Blake, sans garantie que l'adresse soit encore valide. Et il attend. 3 jours plus tard, l'homme du bar envoie à Blake un message alambiqué où l'on devine qu'il se méfie. Il questionne, cherche le défaut dans la cuirasse, laisse parfois passer une journée entre deux échanges. Blake parle de cible, de logistique, de délai, de livraison, et ses précautions achèvent de le rassurer. Il tombe d'accord, Blake réclame la moitié d'avance, c'est déjà 4-0. Lorsque l'homme lui précise qu'il veut que ça ressemble à une cause naturelle, Blake double la somme et exige 1 mois. Convaincu désormais d'avoir affaire à un professionnel, le type accepte toutes les conditions. L'anomalie, c'est le récit intrigant d'une croisée de chemin surréelle. Alors que le vol Air France 006 qui assure le Paris-New York traverse une tempête surprise, les destins des passagers changent à tout jamais. Cet événement insensé que l'on gardera sous silence pour conserver le plaisir du lecteur révélera les vies secrètes que tous savaient leur. Le lecteur est amené doucement dans l'intrigue, puisque sur 280 pages, c'est au bout d'une petite centaine qu'il découvre les détails de l'événement qui nous était déguisé depuis le début. À la place d'ouvrir avec une révélation hâtive, c'est la vie de plusieurs de ses passagers qui nous est d'abord décrite, à la fois avant et après ce fameux vol turbulent. Tous sont liés, ne serait-ce que par leur présence sur le même transatlantique. Pourtant, leurs histoires se croisent parfois au détour d'un livre, d'une histoire commune, d'un regard échangé, comme si la toile de la vie n'avait pas attendu le vol pour les connecter. Quant au style du texte, il est d'abord variant, changeant, divers, mixte. Il se transforme au fil des histoires qu'il raconte, et emprunte au genre du roman policier, quand il décrit un tueur à gages, ne s'encombre plus de la ponctuation dans un dialogue entre enfants se taquinant, retourne à ses belles lettres pour un écrivain presque couronné de succès. Puis, dès que l'incident se produit et est décrit en des mots tangibles, et plus par des allusions vagues et floues, le texte s'uniformise, se mue en un récit à mi-chemin entre la science-fiction et le récit de vie. On suit toujours les péripéties des personnes qui nous avaient été présentées initialement, mais certains prennent plus de place que d'autres. L'intrigue, qui flottait d'abord sur plusieurs vies si différentes, s'attarde aux mêmes personnages qui partagent bien plus qu'auparavant, nécessitant moins de points de vue différents. Les taux se resserrent, les liens se créent et rassemblent des individus pourtant tous différents. Le récit se targue alors de nombreux supports. Articles de journaux, rapports d'interrogatoires policiers, paroles de chansons, échanges de mails ou correspondances épistolaires. Et aussi constamment entre troisième personne omnisciente et première personne qui ne voit que jusqu'au bout de son nez. Enfin, la troisième partie s'attarde sur la vie après l'incident. Sans rentrer dans les détails, le Tellier parvient à utiliser pleinement cet instant pivot sans le justifier ou l'expliquer. Après tout, peu importe, il n'est au final qu'une excuse pour chambouler la vie de ses personnages. Si de nombreux dilemmes éthiques, religieux, philosophiques et moraux sont soulevés, la raison de ce nouveau chaos qui imprègne le monde, cette anomalie donc, reste un simple outil narratif. Peu à peu, la question du pourquoi ou du comment laisse place à des « et après » bien plus passionnants. L'anomalie est un roman qui prend d'abord son temps. Il s'applique à décrire les acteurs de la pièce qu'il met en scène, un par un, soigneusement. En quelques courtes pages chacun, les traits des personnages se dessinent avec efficacité. Le talent de Le Tellier dans l'anomalie, c'est de créer des hommes et des femmes attachants, en ne partant souvent que d'une seule expérience, que d'un seul extrait de vie. Il ne tombe pas dans le piège d'être réducteur ou d'imaginer des humains manichéens. Il arrive avec brio à créer la vie, quelques paragraphes à la fois. Puis le roman s'accélère, et il nous absorbe. Page après page, il nous tease, si vous me pardonnez l'anglicisme, l'anomalie dont il tire le nom. Le rythme s'accélère, ce qu'il peut se permettre de faire puisque le lecteur est supposément accroché à ses lignes depuis quelques pages déjà. Il ne nous perd jamais, et je n'ai eu qu'un seul regret, c'est de ne pas pouvoir lire encore plus vite, impatient que j'étais d'en savoir plus, toujours plus. Après avoir reçu le prix Goncourt, Hervé Le Tellier s'est exprimé plus amplement sur le sujet de ses personnages, je cite « J'ai travaillé sur les personnages et les genres en associant un style à chaque personnalité, en ce sens c'est un travail oulipien, un travail de genre. » Inspiré donc par l'Oulipo, ce groupe de littérature innovante dont il est d'ailleurs membre depuis 1992, il multiplie les références à ce mouvement dont il est devenu le président en 2019. Les trois parties de l'anomalie, intitulées « Aussi noir que le ciel »,« La vie est un songe, dit-on », et « La chanson du néant », sont des extraits de poèmes de Raymond Queneau, le cofondateur de l'Oulipo. Il est également un fier porte-parole du mouvement puisqu'il joue énormément du support roman avec l'anomalie. Les changements de style, de genre, de format au sein du même ouvrage en sont une preuve. La mise en abîme avec un des personnages de l'anomalie qui écrit un roman nommé L'anomalie en est une autre. Sans tomber dans le piège de jouer avec les mots simplement pour le plaisir de les détourner, il les utilise à bon escient, les modèles, les sculpte pour raconter une histoire passionnante, qui laissera sans aucun doute à ses lecteurs un doux souvenir et leur offrira quelques instants de répit dans ce contexte social compliqué que nous subissons tous. En résumé, l'anomalie de Hervé Le Tellier plaira autant aux fans de science-fiction dont ils retrouveront un thème souvent exploité qu'aux adeptes des romans de vie dont il est justement rempli. S'il a été auréolé du prix Goncourt, c'est aussi pour une raison. Il ne fait aucun doute qu'Hervé Le Tellier est un écrivain talentueux dont chaque mot contribue à l'escalade de l'histoire jusqu'à sa fin. L'anomalie me permet de vous parler d'un autre livre, plus ancien car publié en 1969, se revendiquant lui aussi de la mouvance de l'Oulipo. Il s'agit du relativement connu « La disparition » de Georges Perec. Ce dernier, persuadé que la littérature pouvait se sublimer à travers la désacralisation de ses codes, a été un très actif membre de l'Oulipo. Dans « La disparition », on suit une bande d'individus cherchant leur ami disparu, Anton Voil. Mais en réalité, ce qui a disparu, c'est la lettre E. En effet, dans les 300 pages et quelques de cet ouvrage, on ne trouve jamais la lettre la plus couramment utilisée de notre alphabet. Dans ce lipogramme, ouvrage dont il manque une lettre donc, Georges Perec établit un étonnant parallèle entre Anton et la lettre E. Son nom de famille ressemble étrangement au mot voyelle dont on aurait ôté les E. Et au fur et à mesure, les protagonistes comprennent eux-mêmes qu'il s'agit de cette disparition. Pourtant, impossible d'en parler, ils risquent la mort dès qu'ils s'approchent du sujet. Ainsi, Pérec fait un étonnant lien entre la forme et le fond, entre l'histoire et le support. La disparition, en plus d'être un habile travail de style, réussit à ne pas simplement raconter n'importe quelle histoire. On y retrouve tout à fait l'exécution de l'idée de l'Oulipo, selon laquelle les règles brisées permettent de créer de magnifiques œuvres. Il existe tout de même une analyse plus profonde et bien plus touchante à cette œuvre. En effet, les parents de Georges Perec sont morts durant la Seconde Guerre mondiale, et c'est à travers l'absence de la lettre E, si commune et si importante, que Perec décrit son sentiment de perte et de non-complétion. En définitive, je conseille la disparition de Georges Perec aux lecteurs curieux qui voudraient ne serait-ce que voir comment le pari a été relevé. Si la lecture est parfois un peu laborieuse en raison de cette règle, certains critiques de l'époque ne s'étaient même pas rendus compte de cette absence. Les références sont légion, et il est impossible de toutes les lister. La disparition est un curieux ouvrage, à lire et à relire, donc. Merci d'avoir écouté ce podcast. J'espère qu'il vous a plu, au moins autant que j'ai pris du plaisir à le produire. On se retrouve très vite avec un second épisode et toujours plus de voyages oniriques dans le monde incroyable des livres. Bonne nuit et bonne lecture.